Régine Elliott, directrice de la Cité des Insectes. La Cité des Insectes à Ned est sortie de sa pause hivernale le 1er avril et sera ouverte jusqu'au mois de novembre. Donc je reçois Régine, directrice de la Cité des Insectes. Régine, bonjour.
Bonjour.
Comme je disais, la Cité des Insectes se réveille. Est-ce la fin de la diapause hivernale ou une métamorphose pour ce printemps ?
On va plutôt parler de métamorphose alors.
Alors c'est justement l'occasion de nous présenter les nouveautés de l'année. Mais avant de rentrer dans le détail des nouveautés, j'aimerais qu'on présente la structure à ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Et donc la Cité des Insectes, c'est sur la commune de Ned. Vous serez ouvert du 1er avril au mois de novembre, 7 jours sur 7, de 10h30 à 19h. Et alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette Cité des Insectes ? Il paraît qu'il y a un musée.
Oui, c'est avant tout un musée, la Cité des Insectes. Donc un musée sur 400 mètres carrés de collection avec deux étages où on va retrouver plus de 15 000 spécimens du monde entier qui nous présentent les insectes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un cabinet des curiosités, il y a de nombreuses différentes expositions comme le criquet géant, une exposition sur la biodiversité du Limousin, sur les insectes sociaux et aussi bien sûr insectes, culture et tradition qui est tous les liens, qui représentent tous les liens de l'insecte à l'homme.
Ça, ce sont des expositions permanentes ?
Oui, expositions permanentes bon, qui vont varier. On fait varier nos collections puisque nous faisons voir 15 000 spécimens, mais il y en a encore plein dans les tiroirs. Donc régulièrement, chaque saison, chaque hiver, on va renouveler nos collections.
La Cité des Insectes, ce n'est pas qu'un musée, c'est un vivarium aussi.
Oui, il y a aussi du vivant chez nous.
Alors là, on va voir des bestioles qui bougent.
Effectivement, des bestioles qui bougent pas toujours très vite pour certaines, puisque nous présentons des faces, mais on va trouver chez nous deux fourmilières sous vitrine qui vont permettre vraiment de rentrer dans l'intimité des fourmilières et de comprendre cet univers absolument extraordinaire. Mais c'est aussi une dizaine d'espèces qui vont être présentées individuellement dans des différents vivariums. On va avoir du phasme, des blattes, des mille-pattes qui ne sont pas des insectes, bien sûr, attention. Mantes religieuses, coléoptères, enfin voilà, une présentation d'espèces exotiques cette fois-ci.
D'accord, avec les phasmes, je sais que ça peut devenir assez gros. Vous avez des gros spécimens ?
Certains peuvent devenir effectivement assez gros. Nous avons le dilatata où les femelles font bien 15 cm, des belles grosses bien rondouillardes. Nous avons aussi des phasmes géants qui font 30 cm. C'est comme des bâtons tout en longueur, 30 cm. Nous n'avons pas les plus gros. Il faut savoir qu'on a découvert au niveau des insectes il y a 2 ans en Chine un phasme bâton qui fait 60 cm.
Ça, c'est assez grand.
Donc, on est loin de connaître tous les insectes.
Ça me rappelle une anecdote, quand j'ai visité un musée d'insectes, je ne sais plus où, avec un groupe d'enfants. Il y avait des phasmes comme ça dans les vitrines vivants. Et un des enfants qui m'a dit que j'avais un phasme dans le dos. Mais il était tout petit en fait, c'était un phasme du Pérou.
Ah oui, noir, petites ailes rouges, oui, magnifique. Oui.
Et c'est pas très grand.
Ouais, ouais.
C'est moins effrayant.
Oui.
Ah bon, tout ça, le musée de vivarium, c'est à l'intérieur de vos locaux.
Tout à fait.
Il y a aussi de l'extérieur.
Oui, nous avons des jardins.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces jardins alors ?
Eh bien, nous avons un petit peu essayé de recréer de nombreux milieux au niveau des jardins. Nous avons tout d'abord un jardin cultivé avec potager, plantes aromatiques, médicinales et des fleurs dans l'esprit de « je fais mon jardin ». Et je fais mon jardin avec des insectes, évidemment sans pesticides, sans herbicides et autre gros mot de ce genre. Hein. C'est vraiment un jardin fait au naturel. Et puis, nous avons aussi un jardin, ce que l'on appelle naturel, où on ne passe pas la tondeuse, où on ne plante pas tous les matins. On laisse les plantes grandir. On laisse même les orties, c'est pour vous dire, les ronces, enfin, tout un tas de plantes pour qu'on ait des milieux qui soient disponibles pour recevoir le plus grand nombre d'espèces.
Oui, j'avais entendu que les milieux non entretenus, c'est là qu'on trouvait la biodiversité la plus grande.
Bien sûr. Dès qu'on ne coupe plus les plantes, dès qu'on arrête de passer la tondeuse, c'est l'horreur pour la biodiversité, puisqu'on ne laisse même pas les fleurs fleurir. Hein, donc, on perd énormément de plantes et donc on perd énormément d'espèces. C'est pour ça qu'au niveau des jardins de la Cité des Insectes, nous avons la partie cultivée où on passe la tondeuse dans les allées et on cultive de manière naturelle le potager. et puis toute cette partie naturelle où effectivement on peut avoir des grandes herbes folles, les orties qui sont fantastiques pour les papillons, et puis la ronce et d'autres plantes qu'on va laisser pousser. On va juste entretenir les allées pour que le public puisse se promener.
Est-ce qu'on trouve un peu des milieux aquatiques dans votre jardin ?
Oui. Nous avons, alors au niveau du jardin cultivé, nous avons un petit bassin qui va permettre d'observer différentes espèces aquatiques comme des libellules. Hein. Et puis, on va aussi avoir la mare au milieu des jardins naturels, un petit ruisseau. Donc, tout ça va permettre d'observer tous les aquatiques, enfin un grand nombre d'aquatiques en tout cas.
Donc on peut venir visiter tout ça en visite libre sur les horaires que j'ai donnés tout à l'heure, de 10h30 à 19h tous les jours.
Oui.
Et vous organisez aussi des visites guidées.
Oui. Alors, selon le type de public, on travaille soit avec des groupes, c'est-à-dire des écoles, des lycées, des collèges, de la maternelle au lycée-collège. Ce sont des visiteurs qui vont arriver, c'est réservé d'avance, il y a des animateurs et on fait de l'animation pédagogique. Il y a les groupes adultes aussi qui vont venir, c'est-à-dire les adultes, les sportifs, les marcheurs, les collectionneurs de vieilles voitures, les motards, enfin tous les gens qui ont envie de se balader entre copains, mais qui vont vouloir faire au milieu de la journée une visite guidée et ils vont venir nous voir pour une visite guidée de 2 heures. Et puis il y a tout le public famille. Hein, comme en ce moment, les vacances vont commencer, certains sont déjà en vacances, donc on voit arriver les familles qui viennent se balader à la journée. Et pour ce public-là, on va proposer soit des visites guidées, s'ils le souhaitent, tous les jours pendant les vacances à 15h, et ainsi on va parcourir un étage du musée pour leur expliquer la base de la vie chez les insectes.
Il y a combien d'étages à ce musée ?
Deux étages, il y a 400 mètres carrés de collection en fait.
D'accord.
Sur deux étages, oui.
Et alors justement, je me demandais à quel étage est l'exposition temporaire, temporaire mais qui s'installe quand même sur toute la durée de la saison et qui sera visible jusqu'à novembre. C'est du temporaire long.
Oui, chez nous, c'est toujours une exposition d'artistes par saison, parce que c'est un gros travail et qu'on aime bien faire un travail en profondeur. Et donc, on ne peut pas se permettre de changer 2 fois dans la saison. Donc, on préfère partir sur une exposition qui va rester toute une saison.
Et donc là, cette exposition, c'est l'éloge de l'étrange et de l'incompris.
Tout un programme.
Tout un programme. Donc, il y a 7 artistes qui participent.
Oui.
Alors, je ne vais peut-être pas les citer maintenant, mais ça fait beaucoup de monde. On va parler de l'exposition pour commencer. On parlera peut-être des artistes juste après. C'est une exposition qui fait référence au cabinet de curiosité. Ça, c'est des cabinets qui sont apparus à la Renaissance en Europe. Donc c'était des pièces ou parfois des meubles où étaient entreposées et exposées des choses rares, nouvelles et singulières. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à voir des choses nouvelles, singulières dans cette exposition ?
Oui, singulières certainement. Nouvelles aussi, puisque ce sont toutes des pièces qui ont soit été faites pour l'exposition, spécifiquement pour l'exposition, ou certaines qui ont été revisitées pour cette exposition. Et puis, très, très spécifique, très extraordinaire, quoi. Je suis vraiment très, très heureuse de cette exposition qui revisite le cabinet des curiosités, puisque c'était... Ce qu'on voulait des artistes, on avait invité ces artistes à reconsidérer ce cabinet des curiosités 14-18e siècle, qui a été, c'est vrai, le début de l'étude de la nature de manière en vrac, un petit peu. On avait du mal à l'époque de faire les différences entre la connaissance religieuse, la connaissance mythologique. Et puis, ce qu'on voyait courir dans les prairies, c'était pas toujours très clair. Donc, avec ce cabinet des curiosités, on va commencer l'observation de la nature, les inventaires, et plus tard, on nommera la nature, les plantes et les animaux.
Oui, ces cabinets, ça se voulait d'une approche un peu scientifique. Ça a aidé à la compréhension du monde. Alors, est-ce que cette exposition se veut dans le même état d'esprit ?
Eh bien, cette exposition, oui, en fait, quand on a invité les artistes à travailler sur ce thème, on leur a proposé deux concepts qu'il fallait un petit peu frotter les uns contre les autres pour voir ce qui allait en sortir. Et il y avait ce concept du cabinet des curiosités, puisque nous en avons un à la Cité des insectes, et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et puis aussi le travail d'une Américaine qui s'appelle Janine Benyus, et qui a écrit un livre sur le biomimétisme en 1998. C'est « Quand la nature inspire des innovations durables ». Donc, c'était vraiment essayer de voir ces deux concepts, cabinet des curiosités, début de l'étude de la nature, inventaire, on observe pour comprendre. L'idée du cabinet des curiosités, c'était connaître, savoir comprendre, c'est-à-dire observer pour comprendre tout ça. Et donc, on se dit aujourd'hui, bon, bah d'accord, on a observé, on connaît, on sait, on comprend plus ou moins le fonctionnement de la nature, mais est-ce que toute cette connaissance-là nous permet de nous comporter, nous, les deux pattes, les hommes, de manière durable dans cet environnement? Et malheureusement, j'ai bien peur que la réponse va être un petit peu tranchante. Non, on fait encore beaucoup de bêtises, on voit nos espèces disparaître, on voit nos milieux disparaître. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi le travail de Janine Benyus, parce qu'elle elle essaie de dire qu'il faut absolument que l'on s'inspire de la nature pour créer notre architecture, nos matériaux, tout ce dont on a besoin, et pour arrêter de polluer et de détruire. Donc c'était mettre ensemble, c'est vrai que c'est deux gros concepts, mais les frotter ensemble et voir ce qui va en sortir.
Justement, en termes de matériaux, les artistes qui sont là, qui participent à cette exposition, viennent de genres un peu différents. On a des sculpteurs, on a des graphistes, des artistes plasticiens. Alors, ça donne des œuvres un peu variées, j'imagine.
Oui. Oui, c'est ce qui était intéressant dans cette rencontre de ces sept artistes, c'est que tout le monde ne travaille pas pareil. Et on voulait garder du cabinet des curiosités le côté chargé, c'est-à-dire un cabinet des curiosités, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, donc chargé dans des meubles ou sur des étagères. Donc on a conservé ce concept-là, mais avec des choses qui se contredisent, qui peuvent se contredire, et puis beaucoup, beaucoup d'œuvres.
Alors j'ai vu que donc il y a plusieurs articles, pardon, et je me suis demandé si les artistes ont travaillé ensemble pour produire des œuvres, ou est-ce qu'il y a aussi des œuvres issues d'un travail collectif?
Eh bien, disons que certains artistes se connaissent. Hein, comme Scal, Jean-Michel Dallière, Benjamin Landrin, ce sont des artistes qui se côtoient, qui se connaissent parce qu'ils sont tous du territoire et qui travaillent un petit peu en connaissance du travail de l'un et de l'autre. Donc il y a ce côté-là, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un développement global de l'œuvre. Chacun connaissant le travail de l'autre, à intégrer certainement inconsciemment ce que les autres font, mais chacun a travaillé quand même à sa manière dans son atelier.
Donc là, on va trouver un bestiaire très différent, j'imagine, du coup, chaque artiste, cet artiste dont vous faites partie.
Oui, c'est vrai. J'ai décidé de refaire une œuvre cette année, oui.
Et cet artiste, donc cette vision d'insectes différentes. Un vrai cabinet des curiosités, donc.
Oui, où on retrouve à la fois du 3D, de la sculpture, et puis de la sérigraphie. Donc, on revient aussi à cette base des impressions nature, des plantes, des animaux qui se sont développées 16, 17, 18e siècle.
Un artiste de Patrick Bleuzen sera en résidence en parallèle de cette exposition.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer pendant sa résidence?
Eh bien, Patrick Bleuzen est à la fois, c'est un multicasquette, on va dire, naturaliste, hein, entomologiste. Il a nommé de nombreuses espèces de coléoptères, il a écrit plusieurs livres. Il a travaillé souvent sur des films, à la manipulation des insectes et des animaux, de l'ours. Il a travaillé sur l'ours, par exemple. Donc, et c'est quelqu'un qui se dirige de plus en plus vers l'art et qui travaille de plus en plus avec les petites bêtes qu'il adore. Et il crée des œuvres éphémère, c'est-à-dire il va travailler sur la trace des insectes, des arthropodes, parce que c'est aussi bien arachnide, c'est-à-dire araignée, scorpion et mille pattes. Donc il va travailler beaucoup sur la trace laissée dans la nature des arthropodes, mais aussi en faisant le parallèle avec la trace laissée dans la nature par l'homme. On revient à notre idée de départ de l'exposition. Et ces œuvres-là sont des œuvres éphémères. Il pose sur un sable très très fin des arthropodes et il va diriger quand même ces arthropodes pour former, pour que leurs traces laissent des formes sur le sable. Donc c'est un travail qu'il fait lui-même pour son travail personnel, mais il va faire ce travail-là avec tout le public aussi.
Et en parlant de traces, alors qui va laisser la plus grande trace sur la planète, l'homme ou l'insecte, à votre avis ?
Eh bien, disons que, que l'homme est bien parti pour laisser des traces qui ne soient pas tout à fait désirables. Donc, l'insecte, la vie, ne laisse pas de traces. Et nous, on ne sait pas marcher sans... Enfin bon, ne laisse pas de traces négatives. C'est-à-dire, quand j'entends traces dans ce sens-là, c'est pollution, c'est déchets, c'est toutes ces choses-là que l'homme ne sait pas. Pas comment faire autrement. Hein, à chaque fois qu'on oppose un acte, on laisse une trace derrière nous. La vie, la vie quand même sur cette planète s'est développée depuis 3,8 milliards d'années, on va dire, depuis le tout début du début. La vie s'est développée, que ce soit les plantes, les animaux, ça s'est développé, sa vie, en harmonie et sans créer de déchets nuisibles à l'environnement. Nous, l'homme, on ne sait pas faire. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on essaie de soulever cette année. C'est un grand programme, mais ma foi, on le fera à notre manière et dans nos limites.
J'aimerais maintenant, si on n'a rien rajouté sur cette exposition, si on n'oublie rien, qu'on passe à vos animations de l'année.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est déjà commencé. On a vu le 1er avril. Et ça continue en avril.
Tout à fait, tout à fait. On a commencé avec l'ouverture. On a souhaité marquer l'ouverture avec le spécial pack pour le public famille, ce qui est fait.
Et 18 avril, on aura une conférence, l'extraordinaire diversité des abeilles sauvages de nos régions, par Laurent Chabrol. Alors, qui c'est Laurent Chabrol ?
Alors, Laurent Chabrol est entomologiste, membre de la Société entomologique du Limousin. Il enseigne aussi à l'Université de Limoges et il va venir nous parler des abeilles sauvages, des abeilles solitaires que l'on oublie souvent. Hein. Quand on pense abeilles, on pense, bien sûr, on est gourmand, donc on pense à celle qui nous fait le miel, les abeilles sociales qui vivent ensemble. Mais pour quelques espèces d'abeilles sociales, nous avons plus de 800 espèces d'abeilles solitaires. Et pour cette conférence, c'est plutôt sur toutes ces espèces qu'il va nous présenter et nous expliquer leur importance. Bien sûr, leur importance en tant que pollinisateurs et nous expliquer aussi, malheureusement, que plus de 80% de nos espèces de volants sont en train de disparaître. Hein. Ça fait partie des chiffres qui sont sortis en 2017, chiffres donnés par les scientifiques allemands. On a perdu 80% de nos espèces volantes. C'est assez alarmant quand même, quoi. Hein.
Ça rappelle des chiffres qui correspondent à des extinctions de masse du Jurassique.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et celle d'avant aussi. Mm. Donc cette conférence, l'extraordinaire diversité des abeilles sauvages, c'est le 18 avril et ce sera aussi en août.
Oui, on va retrouver, il revient nous voir au mois d'août. Donc il faudra regarder sur le site internet pour bien retrouver tout le détail.
Si on la rate ce 18 avril, on pourra toujours la voir. Ça a l'air d'être une conférence passionnante. On pourra en savoir plus sur les abeilles sauvages. On connaît plutôt l'abeille domestique, on en parle beaucoup. L'abeille sauvage, on en parle peu. En avril, vous avez aussi Une réédition de Pâques ?
Bah oui, parce qu'on a fait un spécial Pâques pour les familles qui sont venues nous voir le 1er avril, mais les enfants du territoire n'étaient pas encore en vacances, ils seront plus disponibles vers le 25 avril, donc on a décidé de leur offrir quand même un spécial Pâques le 25 avril, qui va bien sûr s'adresser à tous les enfants qui sont en vacances et les familles qui sont en vacances.
Donc le 25 avril, deuxième Pâques à la Cité des Insectes, plein de
chocolat. Voilà, on parle des œufs des insectes pour arriver aux œufs au chocolat en finale après la chasse dans les jardins.
Et là, je vous propose qu'on passe assez vite sur la programmation du reste de l'année pour qu'on ait une idée de ce qui se passe dans la Cité des Insectes. Donc un petit mot à chaque fois. En mai, on a la Nuit des Musées.
Oui, nous sommes ouverts tous les ans. De 19h à 24h à peu près pour la Nuit des Musées.
Une nocturne.
Une nocturne gratuite. Donc le visiteur ne paie pas son entrée pour la Nuit des Musées.
Ça, c'est intéressant.
Oui, aussi.
On arrive en juin, si je ne me trompe pas, on a le monde secret des petites bêtes, des collections au jardin avec dégustation de miel et d'insectes.
J'ai une autre avant, le 26 mai. Grâce aux insectes, nous pouvons croquer les plantes sauvages et comestibles. Et ça, c'est un partenariat avec Chantal Ballot qui produit des plantes bio à Émoutier et la Cité des Insectes. Donc, on va parler plantes et insectes pour cette animation-là.
On va croquer des plantes.
Et on va croquer des plantes.
Et l'animation d'après, on croque des insectes.
Oui, ça, chez nous, on croque toujours des insectes.
On n'en a pas parlé encore, mais effectivement, chez vous, on croque des insectes.
C'est vrai, c'est vrai. C'est un thème qui nous a toujours intéressé, l'insecte en tant que protéine pour l'homme. Et depuis 2008, je fais des conférences sur le thème et bien sûr, conférences que je termine toujours par une dégustation d'insectes. Nous avons toujours des insectes en vente dans la boutique à la Cité des Insectes et nous avons toujours aussi une petite dégustation, quelle que soit la date à laquelle vous venez chez nous. Si vous êtes intéressé par cette tentative, vous pourrez goûter les insectes.
C'est bon, les insectes.
C'est très bon. Les gens sont toujours surpris au début. Ils disent « Oh ben non, pas moi, pas les insectes. » Et puis ben, finalement, quand on réalise qu'on est dans le même groupe que les crustacés...
Ça passe.
Ça passe. On mange la crevette. Nous, au 19e, on nous a enlevé l'insecte, mais on avait mangé l'insecte jusqu'à fin 18e, début 19e, même chez nous. Hein.
Là, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir, mais un jour, j'ai fait une quiche aux sauterelles.
Ah ben oui.
Et je ne l'avais pas dit. Je les avais mixés.
Et alors, la famille a apprécié ?
C'était des amis, tout le monde a mangé.
Bon, pas très bien.
En juillet, vous avez une animation de sérigraphie. Donc là, on pourra venir avec nos t-shirts.
Oui. Là, ce sont les artistes, justement.
C'est ça.
Hein, ce sont les artistes. Donc, cette animation sérigraphie va se faire avec Benjamin Landrin et Jean-Michel Dallière, qui exposent dans l'éloge de l'étrange et de l'incompris. Et ils vont proposer une journée un petit peu pour sensibiliser à la sérigraphie le public. Donc, qui voudra essayer, pourra essayer. Il est bien de venir avec son bout de coton, si vous avez un coton uni, un t-shirt que vous voulez bien tenter en impression et vous repartirez avec votre tissu imprimé.
Ça, c'est en juillet. Il y a plusieurs séances.
Oui, j'en ai deux en juillet.
Donc, on retrouvera toutes les dates sur votre site internet.
Et au mois d'août aussi. Hein.
Et au mois d'août.
Oui.
Et voilà. On a aussi un atelier à la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et mares, avec une sortie sur le terrain.
Oui, tout à fait. Ça, c'est en partenariat avec le Centre de la Loutre de Limoges, qui viennent tous les ans faire deux animations. Donc, vous en aurez une au mois de juillet et une au mois d'août. Ça permet au public de pouvoir, s'ils en loupent une, de faire l'autre. Et là, avec l'animateur spécialisé, on va autour des points d'eau pour observer et comprendre tout ce qui se passe au niveau aquatique.
Et ça, si vous le ratez en juillet, vous pouvez le retrouver en août.
Exactement.
En juillet toujours, on aura, comme on en a parlé tout à l'heure, les animations... je me suis trompé de ligne. Si, c'est ça, les animations
oui, Patrick Bleuzen.
Avec Patrick Bleuzen.
Tout à fait.
Donc pendant sa résidence.
Oui, parce qu'il est, il est chez nous, Patrick, du 23 au 29 juillet. Il est visible pendant toute sa résidence au public et il adore travailler avec le public. Donc il est très facile d'accès. On peut échanger et faire des petites tentatives. Mais on a voulu mettre des dates précises pour des ateliers précis avec lui quand même. Et le public va pouvoir approfondir avec lui les traces, les insectes sur le sable et faire chacun son œuvre, la photographier parce que c'est une œuvre éphémère, la photographier et repartir avec son œuvre.
On a une animation scrapbooking, j'ai vu dans votre programme. Qu'est-ce que c'est que le scrapbooking ?
Alors, scrapbooking, effectivement, c'est du collage beaucoup. C'est-à-dire, soit on prend un objet que l'on recouvre de différents papiers très colorés souvent. Et là, l'idée, c'était d'utiliser cette technique pour faire des cartes avec les enfants, des cartes qui seront bien sûr sur le thème des insectes et de la nature. Hein, mais c'est d'utiliser une technique que les enfants connaissent assez bien, qui est assez facile, on va dire, mais qui a un très joli rendu. Et donc, c'est en plein milieu des vacances, c'est pour que les enfants viennent, s'amusent un peu et repartent avec leurs objets.
Ça s'accorde assez bien avec un atelier d'impression au pochoir, je vois.
Oui.
Qui vient juste après.
Qui vient juste après, effectivement. Toutes techniques différentes, mais qui vont permettre au public de découvrir des techniques peut-être, hein, et de les essayer et de repartir avec des objets imprimés ou des objets décorés.
En août, on a aussi une animation sur les papillons. Alors là, ça a l'air d'être un bel événement.
Oui, aussi. Pierre Corradini, entomologiste, spécialiste des papillons, membre de la Société entomologique du Limousin aussi. Et Pierre nous a fait le plaisir de nous proposer cette conférence, cette animation, cette année sur les papillons. Donc, ça va se faire aussi une partie intérieure un petit peu dans le théâtre, à la théorie et à l'observation dans les jardins, en espérant qu'on ait une belle journée. Pour en savoir un petit peu plus, pour connaître un petit peu les particularités des papillons. Il y a des papillons de jour, des papillons de nuit, le cycle de métamorphose du papillon, par exemple. Que mangent les adultes ? Où sont-ils en hiver ? Enfin, plein de questions qu'on se pose et on n'a pas toujours les réponses. Donc, Pierre sera là pour répondre à toutes ces questions.
Eh bien, là, pour l'été, on a fait tout le tour. Après, on arrive très loin dans votre programmation. C'est pour Halloween. On peut juste noter dans un coin de notre tête qu'à Halloween, il se passera quelque chose à la Cité des Insectes.
Et oui, maintenant, on a pris le rythme de faire une proposition pour le public, toujours le 31 octobre, pour une chasse d'Halloween. Et on va renouveler cette année parce que ça s'était très, très bien passé l'an dernier. Et il y a plein de cadeaux qui sont distribués. On goûte des choses bizarres, mais bon... C'est fait exprès pour faire un peu peur. Le musée est transformé en scène d'Halloween et c'est très chouette. Donc, on refait ça cette année aussi, oui.
On vient de passer un peu vite le programme de toute la saison, mais toutes les infos sont retrouvables sur votre site internet et sur les dépliants qu'on pourra retrouver un peu partout. Je me demandais, c'est quoi votre insecte favori ?
Oh là là ! Bah, disons que... J'aime plein de bêtes, évidemment, puisque je suis là en train d'en parler et que j'en ai fait mon travail. Mais c'est vrai que les phasmes, depuis que je suis gamine, ont toujours été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Leur technique de défense, le camouflage, le mimétisme, enfin des techniques qui sont absolument extraordinaires, des formes extraordinaires. Des tailles qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 60 cm pour un insecte, ça sort de l'ordinaire. Et des techniques de vie qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je ne sais pas, pour en prendre une, le phasme tiaratum, par exemple, quand il sort de l'œuf, l'œuf est jeté par terre quand il est pondu. Il va éclore quelques mois plus tard. Et ça ressemble vraiment à une petite fourmi quand il sort de l'œuf. Et très souvent, les fourmis vont récupérer ses œufs pensant que ce sont des graines, parce qu'ils ressemblent absolument à des graines, et vont les emmener dans le nid de la fourmi. Et le phasme va naître dans ce nid de fourmi. Avec les phéromones autour de lui, il ne va pas être inquiété puisqu'il va avoir les mêmes odeurs. Et il va pouvoir être nourri au tout début de sa vie et sortir tranquillement de cette fourmilière. Donc des choses extraordinaires qui, moi, me fascinent toujours.
Les phasmes. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'ai trouvé un phasme dans la nature.
Oui.
Et j'en ai jamais revu depuis. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais petit et que je traînais la tête par terre ou c'est parce qu'il y a moins de phasmes maintenant?
Eh bien, disons que un petit peu des deux, on va dire. C'est-à-dire, quand on est petit, on a tout le temps les mains dedans, le nez dedans, et on y passe beaucoup de temps. Donc, on voit bien sûr des choses qu'on ne voit plus quand on est adulte, parce qu'on court faire d'autres choses. Et puis, ben, on a un tout petit peu touché au milieu quand même depuis que vous étiez tout petit. Donc, à chaque fois qu'on touche au milieu, on les abîme un petit peu, on l'a déjà dit. Et ça fait que sur certains territoires, on peut ne plus les trouver parce que la culture est passée par là, les pesticides, les herbicides et tout un tas de choses qui font que certaines espèces vont disparaître des milieux. Donc là aussi, c'est un mélange des deux, on va dire.
Et votre insecte favori pour manger, ce serait quoi?
J'adore les larves.
Ah, les larves, ah, moi
Les
c'est...
larves de coléoptères. Il faut dire que quand moi je vous les propose, elles sont déshydratées parce qu'elles ont été déshydratées pour être conservées. Ce qui fait qu'une larve déshydratée, elle va être craquante comme une chips, on va dire. Elle est épicée parce qu'on va mettre du cumin, du curcuma, je ne sais pas, on va mettre quelque chose dessus, comme quand on fait son poulet, on l'épice, sel, poivre et compagnie. Donc ça va vraiment vous faire quelque chose de très craquant, très agréable et puis goûtu. Donc moi je trouve ça très bon.
Si je devais adopter un ou plusieurs insectes, qu'est-ce que vous me proposeriez et pourquoi?
Ça dépend de qui vous êtes, si vous allez vous en occuper beaucoup, s'il ne faut pas s'en occuper beaucoup de la bête. Enfin, il y a plein de raisons parce que c'est plus d'un million d'espèces, donc chaque espèce a des spécificités biologiques, qui a des besoins particuliers. Il y en a qu'une fois dans le vivarium, vous pouvez aller voir qu'une fois par semaine et ça ira très très bien. Et puis d'autres, il faut mieux y être tous les jours. Donc ça va dépendre un petit peu de vos tempéraments à vous. Et ça va définir les espèces que vous allez choisir. Je dirais qu'il est vrai que les phasmes sont assez faciles à élever, comme des phasmes bâtons, tiaratomes. Enfin, ce sont des espèces qui sont assez faciles à gérer, qui demandent peu d'entretien et une nourriture facile. Par exemple, si on prend tiaratome, c'est de la ronce. On en a toujours près de chez soi, ça coûte rien. Mais il ne faut pas les oublier dans le vivarium trop longtemps non plus, parce qu'ils ont besoin d'un certain taux d'humidité, d'une certaine chaleur. Et toutes les espèces qu'on va vouloir observer vont avoir leur spécificité, donc à bien connaître la spécificité de l'espèce pour pouvoir l'élever gentiment.
Pendant qu'on parlait, je suis en train de me souvenir, j'ai encore parlé de moi, mais que j'avais un insecte quand j'étais petit,
Eh ben oui, qu'est-ce que c'était
un
alors?
fourmillon.
Ah ben oui.
Et il me semble en avoir vu ici. Et pourtant,
Oui, il faut plutôt être sur des sols sablonneux,
c'est ça.
hein. On les trouve plutôt enfin sur la côte, on va dire ouest de la France.
C'est là où je viens. Alors, j'en ai trouvé un à côté de chez moi. Est-ce que c'est parce que j'ai ramené des pots de fleurs avec de la terre de chez moi? Je ne sais pas.
Ah, je sais. Faudrait que je regarde. Oui, est-ce qu'on en a? On en a peut-être chez nous, hein. Faudrait que je regarde. Vous savez.
Pour nos auditeurs, le fourmillon, c'est à l'état de larve, fait s'enterre dans du sable, creuse un espèce de petit entonnoir
Entonnoir.
dans lequel des fourmis tombent
Voilà.
et les attrape avec ses deux grosses pinces et les enterre dans le sable.
Tout à fait, c'est fantastique à observer d'ailleurs. C'est vrai que je connais Patrick Bleuzen, entomologiste, quand il était enfant, il les élevait, quoi, parce qu'il adorait les observer.
Ah,
Là, c'est quelque chose
c'était
d'extraordinaire de les
effectivement
voir
très
faire
drôle.
l'entonnoir, de les voir en bas de l'entonnoir avec juste les mandibules qui sortent prêts à choper la première fourmi ou la première bête qui va tomber dans l'entonnoir. C'est vrai que c'est des espèces qui sont tout à fait extraordinaires.
Et ça grossit assez vite, si bien que je donnais des cloportes par la suite, parce qu'il fallait les
Il
fourmis
fallait
suffit,
fournir.
fallait fournir.
Ah, si on choisit un carnassier, il faudra nourrir avec du vivant. Enfin, pas toujours du vivant. Certains carnassiers peuvent se contenter de bêtes mortes, mais selon les espèces, effectivement, c'est du vivant.
Eh bien, je vais finir cette petite parenthèse sur l'élevage d'insectes. Régine, si vous avez quelque chose à rajouter, un sujet qu'on n'a pas évoqué lors de cette interview sur la Cité des insectes, ben c'est le moment.
Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je pourrais. On a abordé un petit peu beaucoup de sujets. Ce qu'on peut dire certainement, c'est que si vous recherchez une information sur la Cité des insectes, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, www.lacitedesinsectes.com. Vous y retrouvez toute l'actualité, donc toutes les conférences, les animations dont on a parlé. Et puis, vous y retrouverez tous les atouts de la Cité des Insectes, le snack bar, la boutique. Enfin, vous y retrouverez tout ça. Et voilà, voilà. Je pense qu'on a tout à fait... On ne peut pas tout dire aujourd'hui.
Peux rajouter que peut-être le vernissage de l'exposition,
oui.
C'est ce vendredi 6 avril.
Vendredi 6 à partir de 18h, effectivement. Et si je voulais dire une chose, peut-être aussi, pour les familles, pour les enfants, chez nous, il y a ce qu'on appelle les instants famille, c'est-à-dire manipulation d'insectes, dégustation d'insectes et tout un tas d'autres petites interventions des animateurs auprès du public. Donc, c'est des petits moments sympathiques pour les publics qui ne souhaitent pas faire la visite guidée ou qui veulent juste faire leur découverte indépendamment. Bon, on peut quand même faire des choses pour eux.
Eh bien, Régine, merci.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
C'était Régine Alliot, directrice de la Cité des Insectes à NED. Je rappelle que le vernissage de l'exposition « L'éloge de l'étrange et de l'incompris », c'est ce vendredi 6 avril à 18h. Le prochain événement, c'est la conférence « L'extraordinaire diversité des abeilles sauvages de nos régions » par Laurent Chabrol, entomologiste et vice-président de la Société entomologique du Limousin, ce 18 avril de 15h à 18h. Le 25 avril de 15h à 17h, animation famille spéciale Pâques avec du chocolat. La Cité des Insectes est ouverte tous les jours pour des visites libres de 10h30 à 19h et des visites guidées à 15h pendant les vacances scolaires, les ponts et les dimanches. Et tous les jours sur réservation. Et vous pouvez retrouver toutes leurs informations sur leur site internet lacitedesinsectes.com, par téléphone 05 55 04 02 55 et leur mail c'est info@lacitedesinsectes.com.